Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
De loin, le plus gros contingent d'électeurs de la planète en 2024. L'Inde, pays le plus peuplé au monde, devant la Chine. Ils seront près d'un milliard à se rendre aux urnes au printemps pour des élections générales, sans grand suspense.
Le 19 avril, les électeurs indiens commenceront à se déplacer vers les urnes pour élire la chambre basse du Parlement, comme on l'entend ici sur TV5 Monde. Au bout de ces élections législatives, la place de Premier ministre. Narendra Modi, au pouvoir depuis près de 10 ans, remplira-t-il pour un nouveau mandat de 5 ans ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme disponible notamment sur Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
नमस्कार मैं रविश कुमार ऐसा प्रचंड नतीजा आया है कि राजनीति को लेकर सभी पुरानी समझ और पीएचडी फिलहाल निरस्त या स्थगित हो गई है
Soirée électorale en 2014 sur NDTV en Inde, Narendra Modi, 63 ans à l'époque, gagne les législatives et devient premier ministre de l'Inde. Son parti, le BJP, a remporté plus de 300 postes de députés, assez pour obtenir la majorité absolue. 10 ans plus tard, Modi se présente en favori pour un nouveau mandat, le troisième. Bonjour Clément Perruche.
Bonjour.
Vous êtes correspondant des Échos en Inde. Les bureaux seront ouverts le 19 avril pour élire les députés indiens. Ils fermeront leurs portes presque 2 mois et demi plus tard, le 1er juin. Pourquoi est-ce que c'est aussi long ?
Alors, il y a 2 raisons principales. La première raison, elle est logistique. Les élections de 2024 sont d'ores et déjà des élections records, puisque presque 1 milliard d'Indiens sont appelés aux urnes. Et c'est considérable. Cela prend du temps de faire voter 1 milliard de personnes. Il faut se rendre compte que cela nécessite 1 million de bureaux de vote et plus de 15 millions d'agents électoraux. 15 millions de personnes, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas suffisant pour faire voter tout le monde en même temps. Et en fait, il faut que les agents électoraux puissent voyager d'un état à l'autre pour organiser le scrutin. Voilà pourquoi les élections durent 6 semaines. La logistique de ces élections, elle est considérable, notamment parce que la loi indienne dispose qu'aucun électeur ne doit faire plus de 2 kilomètres pour aller voter. Donc cela force les agents électoraux à aller chercher tous les électeurs, que ce soit au fin fond de la jungle ou bien à très haute altitude dans l'Himalaya. L'autre grande raison qui fait que ces élections sont très longues, c'est que certains États sont plus sensibles que d'autres aux tensions politiques et communautaires. L'État d'Uttar Pradesh, le plus peuplé du pays avec 240 millions d'habitants, a été divisé en 7 zones qui voteront les unes après les autres. Et le but, c'est de permettre aux services de sécurité de l'Uttar Pradesh de pouvoir assurer la sécurité du vote dans de bonnes conditions. D'autres États où la situation est moins sensible votent en un seul coup.
Et oui, 1 milliard d'électeurs, la plus vaste élection du monde dans un pays qu'on présente comme la plus grande démocratie du monde, avec des isoloirs voyageurs dont l'un va se retrouver à 4650 mètres d'altitude, quasiment en haut du Mont Blanc. J'ai lu aussi une anecdote dans le journal québécois La Presse. En 2019, une équipe d'agents électoraux a parcouru plus de 480 kilomètres pendant 4 jours pour qu'un seul électeur d'un hameau de l'Arunachal Pradesh, frontalier de la Chine, puisse exercer son droit de vote en espérant qu'il n'était pas abstentionniste. Alors la phase d'élection dure plusieurs semaines. Pendant ce temps-là, la campagne se poursuit-elle ?
Alors oui, tout à fait, la campagne se poursuit tout au long des élections. Les différents candidats, dont le Premier ministre sortant, Narendra Modi, peuvent continuer à organiser des meetings. Les partis sont quand même soumis à un code de conduite lors de cette période électorale qui les empêche de faire certaines choses. Par exemple, ils n'ont pas le droit de tracter autour des bureaux de vote. Ils n'ont pas non plus le droit d'amener en bus les électeurs au bureau de vote pour qu'ils puissent voter. Et 48 heures avant l'annonce des résultats, tous les partis doivent cesser leur activité électorale. Ils ont interdiction d'organiser des meetings, de tracter et de communiquer. C'est ce qu'on appelle la période silencieuse des élections indiennes.
Bharat Mata Ki. Puri taakat se boliye Bharat Mata Ki.
Ella rendu kai eduthu Bharat.
Bharat Mata Ki.
Jai.
Bharat Mata Ki.
Jai.
Vande.
Narendra Modi, premier ministre en exercice, lors d'un meeting à Vellore, c'est pas très loin de Madras, dans le sud du pays, devant des milliers de partisans, il se représente pour un troisième mandat. Alors d'abord, est-ce qu'il peut compter sur son bilan économique pour s'attirer les faveurs des électeurs?
La réponse est oui et non. En fait, en 10 ans, Modi a indéniablement fait avancer le pays sur bien des aspects. Les infrastructures, par exemple, sont bien meilleures qu'il y a 10 ans parce que le gouvernement indien a investi des milliards et des milliards de roupies pour construire des routes, des métros, des aéroports, des ponts, etc. Par ailleurs, la croissance du PIB indien, elle est solide. Elle va dépasser les 7% cette année. L'Inde est désormais la 5e puissance mondiale et dépassera bientôt l'Allemagne et le Japon pour devenir la 3e puissance mondiale après la Chine et les États-Unis. C'est un grand motif de fierté pour les Indiens, indéniablement. Il y a quand même un bémol, c'est que cette croissance économique et cette ascension économique ne profitent pas à tout le monde. Les classes aisées s'en sortent beaucoup mieux que les plus pauvres. Et ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale n'ont pas vu leur situation sensiblement s'améliorer ces dernières années. Malgré ce bilan en demi-teinte, Modi reste extrêmement populaire, notamment parce qu'il a développé l'État-providence. Donc cela se traduit par exemple par des transferts d'argent, des livraisons de denrées alimentaires gratuites, le gouvernement fournit aussi des bouteilles de gaz, il a relié des centaines de milliers de villages au réseau électrique ces dernières années, il a aussi fait construire des centaines de millions de toilettes, et les Indiens sont très sensibles à ce genre de mesures parce que ces aides ont concrètement changé leur quotidien. Modi a aussi accéléré le déploiement des paiements digitaux, qui permettent de verser directement les allocations aux familles. Cela a permis de réduire la corruption au niveau local. Et en fait, en réduisant cette corruption au niveau local, Modi, en un sens, a redonné de la dignité aux plus pauvres, parce que les plus pauvres, avant, pour toucher leurs allocations, ils étaient obligés de verser des pots de vin.
Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Et ça me désole, hein.
Et cette croissance économique se ressent aussi sur la performance de la bourse indienne. L'indice MSCI India bondit de 38% sur un an. Comment expliquer ce dynamisme indien alors que le voisin chinois est en plein ralentissement?
La situation des deux géants asiatiques n'est pas vraiment comparable. Le PIB indien avoisine les 4 000 milliards de dollars, tandis que celui de la Chine approche les 18 000 milliards de dollars, pour une population quasiment égale. Cela veut dire que le PIB par habitant indien est plus de 4 fois inférieur au PIB par habitant chinois. Et le stade de développement des deux pays n'est évidemment pas le même. Donc d'une certaine manière, on peut dire que l'Inde est tellement en retard par rapport à son voisin chinois qu'elle ne peut que progresser, d'où son dynamisme économique actuel. Alors évidemment, bon, la Chine, elle ralentit aussi parce que le Covid a abîmé son économie, mais aussi parce que la hausse des salaires a un peu réduit sa compétitivité. La situation chinoise est aussi liée au fait que le rebond post-Covid tant attendu ne s'est jamais produit. Il faut ajouter à ça une crise de l'immobilier et un recul des exportations à cause de la récession mondiale. Et vous avez un cocktail détonnant qui fait que l'économie chinoise connaît des taux de croissance plus bas que lors des dernières années. La situation en Inde, elle est un peu différente. Évidemment, à cause du ralentissement chinois et des tensions entre Pékin et Washington, beaucoup d'investisseurs se tournent désormais vers l'Inde et vers la bourse indienne. Il y a un sentiment positif chez ces investisseurs qui sont convaincus que l'Inde est sur la bonne voie pour devenir le gros moteur de la croissance mondiale dans les années à venir. New Delhi compte d'ailleurs tirer profit de cette stratégie qu'on appelle Chine plus 1, qui consiste pour les industriels à diversifier leur base en Asie pour réduire leur dépendance à la Chine. Mais l'Inde n'a pour l'instant que très peu bénéficié de ce redéploiement des chaînes de valeur dans la région. Il faut aussi souligner que tous les secteurs de l'économie indienne ne sont pas en bonne santé. L'agriculture, qui emploie quasiment la moitié de la main-d'œuvre, est en crise. L'industrie manufacturière, sur laquelle a reposé le miracle économique des dragons asiatiques, reste le parent pauvre de l'économie indienne. Et c'est dommage parce que c'est pourtant un secteur crucial qui est indispensable pour tirer les gens hors de la pauvreté.
Ils ont pris la route, direction la capitale.
Nous ne reviendrons pas en arrière. Venez vers nous, que le Premier ministre descende dans la rue.
Ce mardi, des milliers d'agriculteurs sont arrivés aux portes de New Delhi, bien décidés à bloquer la ville.
Des agriculteurs en colère qui menacent de bloquer la capitale, un Premier ministre sommé de venir à leur rencontre. Alors nous ne sommes pas en France, mais en Inde, il y a un mois, comme on l'entend sur TV5 Monde. Clément, vous parliez justement des difficultés du secteur agricole. C'est une menace qui pèse sur le vote en faveur du parti de Narendra Modi ?
Assez peu en réalité. Alors bien sûr, bon, ça n'arrange pas Modi qu'il y ait une crise de l'agriculture. Mais si vous voulez, la situation des agriculteurs est tellement différente selon les États. La récente crise agricole a surtout mobilisé les agriculteurs du Punjab et de l'Uttar Pradesh. Dans d'autres États, la situation est plus stable. Et en fait, la main-d'œuvre agricole est aussi divisée en fonction de la caste, de l'origine géographique, de la communauté, ce qui empêche qu'un grand mouvement national émerge pour faire de l'agriculture un sujet important lors des élections.
Et même si le Premier ministre a accueilli avec méfiance ce mouvement de colère, alors que le secteur agricole représente 45% de la main-d'œuvre et 15% du PIB, il a encore en tête les manifestations de 2020-2021 lorsque les paysans critiquaient trois lois agricoles adoptées par le Parlement. Le conflit avait duré un an jusqu'à ce que les syndicats obtiennent satisfaction, mais il s'était soldé par le décès de près de 700 personnes. L'Inde, future troisième économie du monde en PIB selon le FMI, la route de ce pays de plus d'1,4 milliard d'habitants est tracée, mais le pays fait face à un défi important. C'est, vous le disiez, une croissance qui est loin de profiter à tout le monde. Et c'était pourtant l'une des promesses de Narendra Modi.
Oui, tout à fait. En 2014, Modi avait été élu sur la promesse d'apporter la croissance économique et le développement à tous les Indiens. Donc, on l'a dit, sur pas mal de tableaux, la situation des plus pauvres a certes progressé, notamment grâce aux infrastructures et aux aides gouvernementales. Mais les années Modi ont surtout profité aux ultra-riches. Un récent rapport du World Inequality Lab a calculé que le 1% des Indiens les plus riches détenaient 40% des richesses du pays. Ce niveau n'avait pas été atteint depuis 1961. Le rapport montre aussi que le 1% des Indiens les plus riches totalise 22% des revenus, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 1922, date à laquelle l'Inde était encore sous la domination britannique. C'est dire l'importance des inégalités dans le pays. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le modèle économique de Narendra Modi a surtout favorisé les grands conglomérats industriels du pays, comme le groupe Adani ou bien Reliance, le groupe de Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie. Ces grands manias ont vu leur fortune considérablement augmenter lors des années Modi. C'est lié au fait qu'ils ont pu bénéficier de concessions gouvernementales qui leur ont permis d'exploiter des ports, des mines, des aéroports et aussi de profiter de régimes fiscaux avantageux. Tout cela les a rendus beaucoup plus riches.
Et résultat, selon cette même étude, les 50% des Indiens les plus pauvres représentent seulement 15% des revenus. 813 millions de personnes dépendent toujours de l'aide alimentaire en Inde. Le ruissellement, ce sera l'un des grands défis de Narendra Modi s'il est réélu pour un troisième mandat.
Kaldas, Kerala, Andhra, Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry, Delhi, UP, Madhya Pradesh. Failure. Election king. Oh.
Alors, il s'appelle K. Padmarajan, il a 65 ans, il est réparateur de pneus dans le sud du pays et il se présente une nouvelle fois à des élections en Inde. Je dis une nouvelle fois parce que ce sera la 238e fois pour 238 défaites, une sorte de record du monde. On le surnomme d'ailleurs là-bas le roi des élections. Alors, ça ne sera pas lui le prochain Premier ministre, c'est évident. Mais Clément, qui est favori ?
Alors, pour ces élections, la messe a déjà été dite, en quelque sorte, parce que, évidemment, Modi est le grand favori de ces élections. Et il devrait vraisemblablement redevenir Premier ministre à l'issue du scrutin. Certains analystes pensent même que son parti, le BJP, devrait remporter encore plus de sièges au Parlement qu'en 2019.
Et dans quel état d'esprit Modi aborde-t-il la campagne ?
Modi est extrêmement confiant parce qu'il a en face de lui une opposition fracturée. Les partis d'opposition ont noué une alliance pour affronter ensemble le BJP, mais ils s'y sont pris très tard, quelques mois seulement avant le scrutin, et leur manque de vision et de stratégie fait qu'ils n'ont aucune chance de rivaliser avec Modi en 2024. Cela explique pourquoi Modi a tout simplement un boulevard en face de lui pour ses élections. Lors de son deuxième mandat, Modi a aussi musclé sa rhétorique nationaliste. Selon ses détracteurs, Modi a affaibli la démocratie indienne, notamment en faisant arrêter des leaders de l'opposition pour des affaires de corruption. Cela explique aussi pourquoi l'opposition est tellement fragilisée. Depuis son accession au pouvoir, la liberté de la presse est considérablement restreinte. Il est devenu très difficile de critiquer ouvertement Narendra Modi. Tout ceci explique pourquoi Modi est aussi puissant et arrive aussi confiant pour ses élections.
Et la rhétorique nationaliste de Modi, une petite touche populiste aussi dans ce pays où les tensions communautaires restent fortes dans certaines régions. Je vous invite d'ailleurs, chers auditeurs de La Story, à découvrir via le lien dans le descriptif de ce podcast le reportage de Clément dans le nord de l'Inde à Ayodhya, où Narendra Modi est venu inaugurer en janvier un immense temple consacré au dieu Ram, à l'endroit où se trouvait une grande mosquée détruite en 1992 par des extrémistes hindous, comme on l'entend ici dans cette archive de l'INA.
Armés de pioches, de marteaux et de sabres, ces quelques milliers d'hindous que l'on peut qualifier d'extrémistes vont détruire et raser en 4 heures de temps la mosquée d'Ayodhya, une mosquée édifiée en 1528 en lieu et place d'un ancien temple.
Modi favori, mais son parti, le BJP, a reçu une mauvaise nouvelle. Un jugement de la Cour suprême a mis fin à un système qui s'appelle les bons électoraux. De quoi s'agit-il, Clément, et pourquoi cela pourrait-il pénaliser le parti de l'actuel Premier ministre ?
Alors, les bons électoraux étaient un instrument qui permettait aux entreprises de faire des dons de manière anonyme au parti. Récemment, la Cour suprême a jugé qu'ils étaient antidémocratiques et a donc décidé de mettre fin au système qui a principalement bénéficié au BJP. L'arrêt des bons électoraux est un revers pour Modi, mais cela ne devrait pas trop l'affecter pour ces élections parce qu'en réalité, le mal a déjà été fait, si vous voulez. Le BJP a déjà encaissé ses dons et ses caisses sont pleines à craquer. Le parti dispose de ressources financières considérables et sur ce terrain, les partis d'opposition ne peuvent pas espérer rivaliser avec le parti au pouvoir.
Merci Clément Perruche, journaliste aux Échos, correspondant en Inde. Vous pouvez retrouver ses analyses et reportages sur leséchos.fr. Et si vous n'êtes pas abonné, il n'est pas trop tard. Rendez-vous sur le site abonnement.leséchos.fr/lastory. Vous pouvez aussi cliquer, c'est plus simple, sur le lien dans la description de ce podcast des Échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.